L'intelligence artificielle n'est plus seulement une innovation technologique, elle est aujourd'hui un véritable enjeu stratégique et géopolitique. De Washington à Pékin, de Bruxelles à Abidjan, ou de Paris à Moscou, l'IA redessine les rapports de force mondiaux, influençant aussi bien les économies que les systèmes de défense et de sécurité. C'est dans ce contexte que s'est tenu le sommet sur l'IA en France, réunissant des chefs d'État, des experts et des industriels du monde entier. Un sommet marqué par l'adoption d'une charte historique. Mais au-delà des discours et des engagements, quels impacts concrets pour notre pays? Quelles implications pour notre souveraineté numérique, notre stratégie de digitalisation et nos politiques de cybersécurité? Pour en parler, nous avons aujourd'hui un expert de renom, Dr Hyacinthe Kofi, enseignant-chercheur, spécialiste en cybersécurité et intelligence artificielle. Il est aussi directeur des systèmes d'information groupe pour une holding multisectorielle. Alors, j'ai vu que vous êtes classé parmi les 100 experts les plus influents en cybersécurité en Afrique en 2024. Bonjour, Dr Kofi.
Bonjour à vous, Monsieur Koulibaly.
Alors, très heureux de vous recevoir. Oui, rapidement, avant de commencer, parlez-nous de ce classement-là.
Alors, c'est un classement qui a été effectué par CyberOps, donc justement qui regarde un peu l'activité, on va dire, des professionnels du milieu, donc à l'échelle africaine. Et donc, j'ai eu l'occasion, hein, voilà, donc d'être classé dans le top 100. Donc, ça a été vraiment une récompense, on dira, mais qui est un peu comme un encouragement à faire mieux, mais à rester vraiment à la pointe, en fait.
C'est cela. Alors, avec vous, on parlera de l'état des lieux au niveau mondial, hein, concernant la course à l'IA, les enjeux géopolitiques. On parlera aussi, dans un deuxième temps, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, les opportunités et les risques, avec des cas concrets, hein, si vous pouvez nous les partager également. Et puis, on terminera avec des perspectives pour l'Afrique et des recommandations. Alors, ouvrons avec ce sommet de l'IA en France. Vous avez sûrement suivi, hein, ce grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle à Paris. Pouvez-vous nous rappeler les grands enjeux qui ont dominé cette rencontre?
Mais alors, ça a été une belle rencontre. Disons que ce sommet-là, donc pour l'action sur l'intelligence artificielle, s'est tenu, hein, ces derniers jours, donc à Paris. Et donc, à la faveur donc de ce rassemblement-là, une déclaration en faveur aussi donc de l'IA ouverte, mais pas que, une IA qui se veut aussi inclusive et éthique. Voilà, donc parmi les signataires, donc on pourra donc noter, hein, la présence de la France, de la Chine, de l'Inde, mais tandis que, à contrario, on a les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont refusé d'y adhérer. On note que les principaux engagements de cette charte-là, c'est vraiment d'avoir une gouvernance mondiale qui soit renforcée, donc la mise en place d'un dialogue international donc pour coordonner la régulation de l'IA, une accessibilité, disons, et une sorte de concurrence qui soit équitable, donc en termes de prévention, de la concertation donc du marché, donc afin d'assurer vraiment un accès qui se veut équitable, un écosystème d'IA durable et responsable, voilà, une bonne collaboration qui se veut aussi entre les différentes parties prenantes, que ce soit dans le privé comme dans le public, et puis on dira une transparence et une confiance aussi, donc nécessité d'encadrer le développement de l'IA donc pour garantir naturellement la sécurité et naturellement aussi, hein, la protection des données. Voilà, donc c'est vraiment ces éléments-là qui ont, on va dire, qui ont maillé, hein, l'écosystème de cet environnement-là. Mais moi, j'ai quand même noté une sorte de fracture donc entre la vision européenne et la vision américaine. Donc, alors que l'Europe, on va dire, cherche à encadrer le développement de l'IA avec des règles plus strictes, les États-Unis prônent, on va dire, une approche qui se veut plutôt pro-croissance et dérégulée. Le vice-président américain, d'ailleurs, a affirmé, hein, la volonté des États-Unis donc, de maintenir leur leadership mondial en matière d'IA. Donc, il a cité naturellement ce fameux programme Stargate, donc un investissement de plus de 500 milliards de dollars donc, pour soutenir l'IA américaine. Donc, dans ce contexte-là, naturellement, des tensions se sont accentuées, donc, notamment avec des révélations aussi qui ont été faites par Elon Musk. Donc, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Donc, pour moi, Ce sommet-là marque véritablement une avancée pour la régulation mondiale de l'IA, mais aussi un clivage, on va dire, géopolitique croissant entre une Europe régulatrice, une Chine présente mais prudente, et les États-Unis en quête de domination technologique.
Et face à ce clivage dont vous parlez, alors quelles pourraient être des incidences hein, au niveau de la technologie et de l'avancée de l'IA ?
Mais bien sûr, face à cela, il va y avoir plusieurs sujets. Hein, plusieurs sujets donc, en termes de, on va dire, d'action liée à l'éthique et à la responsabilité. Mais aussi, on va voir qu'il aura comme une sorte de creuset qui va encore se renforcer, notamment pour les pays, on va dire, qui ne sont pas très bien positionnés, notamment nos pays africains. Et voilà, donc, et déjà qu'il y avait de vrais sujets qui existaient, comme, on va dire, le taux de couverture d'Internet, des sujets comme le niveau d'industrialisation, ça va être des sujets qui vont certainement encore une fois se renforcer, et bien... Ça sera à nous certainement de voir et de saisir l'opportunité parce que l'IA, on va dire, c'est un couteau suisse. Il a deux aspects. Il y a l'aspect positif, mais il va y aussi avoir l'aspect négatif. Donc l'IA, si on arrive à se l'approprier, à l'apprivoiser aussi par derrière, nous serons capables de faire des choses merveilleuses. Mais en même temps, l'IA pose de vrais défis. Et donc, ça sera à nous de regarder tous ces défis-là d'un œil vraiment très vigilant. Voilà, on a plusieurs aspects, on va dire, qui se créent. C'est vrai, on parle de deepfake aujourd'hui, mais c'est pas le seul sujet. Demain, ça sera presque impossible de reconnaître le vrai du faux. Donc, ça va être de vrais sujets. Et si tout cela n'est pas encadré, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui va se passer demain ?
C'est cela. Alors, pour les pays africains, bien évidemment, vous en parliez, et la Côte d'Ivoire fait partie des pays signataires, puisqu'il y avait la présence du ministre ivoirien de la digitalisation et de l'économie numérique. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier concrètement hein, pour notre pays ? Et puis, est-ce que la signature de cette charte est en accord avec l'ampleur ou de la digitalisation ? Vous parliez aussi des défis, hein, sur la question aussi de l'éducation, de l'alphabétisation au numérique. Quelle analyse vous faites justement de la signature de cette charte par les pays africains ?
Mais alors, pour moi, c'est un beau départ. C'est un beau départ. On va dire, c'est un sujet qui est d'actualité. Et d'ailleurs, comme on peut le noter, hein, à travers, on va dire, des environnements divers et variés, comment est-ce que l'Afrique se positionne, on va dire, dans cet écosystème-là ? Il y a beaucoup de travail à faire, on va dire, du côté de l'Afrique. C'est une réalité, il ne faut pas se leurrer. Et il est clair que la présence déjà de la Côte d'Ivoire, c'est un élément important, mais pas que. Et l'autre aspect, pour moi, qu'il faut regarder, c'est que au niveau même de l'Afrique, nous avons, quand on regarde en fait au classement, en tout cas au tout dernier rapport Oxford Insight de 2024, sur les pays les mieux préparés donc à l'intelligence artificielle en termes d'adoption, les États-Unis dominent le classement, donc ils sont suivis par Singapour, la République de Corée, la France et le Royaume-Uni. Donc cet index-là, faut dire qu'il, on va dire, repose sur trois fondamentaux, trois piliers, le gouvernement, le secteur technologique, les données et l'infrastructure. Donc, au niveau de l'Afrique, nous avons le top 5, l'Égypte, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Sénégal. Et le premier pays africain qui est l'Égypte occupe la 65e place donc, dans le classement mondial. Donc, la Côte d'Ivoire occupe donc, la 141e place mondiale et la 22e place, on va dire, au niveau africain. Donc, la présence aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est un signal fort. Et d'ailleurs, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, le gouvernement est en train de faire des efforts donc, pour la mise en place d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle et de gestion des données. On a eu l'occasion de participer à quelques ateliers sur le sujet. Donc, je pense qu'on a bien compris le sujet. Et d'ailleurs, plusieurs forats ont lieu justement au niveau donc de la Côte d'Ivoire sur le sujet. On a eu récemment Intech Santé qui a eu lieu. On va avoir d'autres types de forats de ce type-là. Donc, c'est vraiment un signal important que la Côte d'Ivoire est prête à aller de l'avant. Et bien sûr, l'Afrique, on va dire, en elle-même, a un gros effort à faire, d'autant plus que et quand on regarde en fait en termes d'investissement, il y a encore certainement beaucoup de choses à faire. On regarde au niveau donc des États-Unis, quand on regarde vraiment en termes d'échelle, d'économie d'échelle, sur ce qui est investi aujourd'hui aussi en France, comme on a pu le voir à travers ce sommet-là, on peut se poser la question, est-ce que l'Afrique est prête vraiment à suivre? Parce que d'un autre côté, l'investissement annuel global du continent africain s'élève à seulement, on va dire, 3 milliards de dollars, donc 150 millions donc, pour l'IA. Or, les États-Unis consacrent chaque année plus de 65 milliards de dollars uniquement donc, à l'IA. Donc, avec l'arrivée récente du président Trump, un investissement exponentiel est prévu. Les États-Unis investissent plus de, on va dire, plus de 2150% de plus que l'Afrique, on va dire, en termes d'IA. Hein. Voilà, mm-hmm. Donc, en 2025, les États-Unis prévoient d'investir massivement dans les domaines de l'IA. Et on a le fameux programme, le projet Stargate, qui va encore faire jaser. Donc, il est clair que d'un point comme de l'autre, avec ce sommet-là, cette semaine, on a pu l'entendre à l'occasion donc, du sommet. Donc, le président de la République française donc, annonce un investissement de, on va dire, plus de 100 milliards d'euros donc, dans les prochaines années. Voilà, donc, il faut dire que c'est un vrai sujet. Il faut le regarder avec beaucoup d'attention, en tout cas pour l'Afrique. Il faut dire aussi qu'il n'existe pas forcément une corrélation directe entre le niveau d'investissement et le positionnement, parce que certains pays n'ont pas investi autant, mais ils se positionnent bien, on va dire, dans l'échiquier de l'IA. Donc, l'Afrique doit pouvoir saisir l'opportunité, regarder à ses talents et puis pouvoir aller de l'avant.
Et on pourrait poser cette question. Alors, ces pays-là occidentaux qui investissent autant de milliards dans l'intelligence artificielle ont déjà atteint certains objectifs dans d'autres domaines. Alors, pourtant, ce n'est pas forcément le cas pour les pays africains qui ont encore beaucoup de défis à relever, tant au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures. Alors, comment cela peut être réaliste?
Ah ben ouais, c'est vraiment une très bonne question, en ce sens que l'Afrique, elle a ses propres problèmes, on dira comme cela. Il y a le problème de la santé, il y a le problème de la pauvreté, de l'éducation. C'est de vrais sujets, voilà, qui sont existentiels. Malheureusement, on a tendance à suivre, on va dire, le vent. C'est peut-être une conjoncture à faire autrement. Il nous faut véritablement, on va dire, être des personnes qui vont guider l'écosystème, mais peut-être que c'est encore trop tôt. Pour moi, effectivement, la technologie avance, c'est une opportunité. Voilà. Si effectivement on y met les talents qu'il faut, si véritablement on essaie de tout mettre en œuvre pour ne pas rester trop derrière, parce qu'en réalité, l'IA peut permettre de pouvoir glaner justement un avancement très important en termes de PIB. Voilà, on a pu faire la remarque sur plusieurs sujets. Et voilà, donc aujourd'hui aussi, l'IA, comme on a pu le voir, en termes d'industrialisation, ça permet vraiment au pays de mieux se positionner. C'est vrai, l'Afrique a ses propres problèmes, mais en même temps, l'Afrique ne va pas rester en marge. Parce qu'en réalité, si nous restons en marge, le creuset va s'accentuer et véritablement, au moment où on va s'en rendre compte, on verra que les autres pays sont allés encore très, très, très loin. Déjà qu'il y a déjà un beau fossé et cela va encore une fois s'accentuer. Donc, l'Afrique ne doit pas rester en marge, ne doit pas rester en autarcie. L'Afrique doit prendre, on va dire, son bâton de pèlerin et véritablement prendre ses habitudes. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose hein, de participer à ce sommet-là, comme celui auquel l'Afrique a pris part récemment.
Mmh. L'IA, véritable enjeu stratégique et géopolitique, c'est le thème de cette émission que vous suivez en ce moment, et nous avons le plaisir de recevoir Dr Hyacinthe Kofi, enseignant-chercheur et spécialiste en cybersécurité et en intelligence artificielle. Dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué bien évidemment ce sommet sur l'IA qui a eu lieu en France ce mois de février. Et voilà, nous sommes en tout cas très 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 heureux d'évoquer tous ces grands sujets-là importants, des enjeux globaux au niveau du monde. Et nous allons à présent chercher à comprendre, on dira, la question de la stratégie et de la géopolitique à travers l'IA. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un formidable hein, outil de progrès, bien évidemment, mais on voit beaucoup de pays, effectivement, qui courent Et qui s'impose, bien évidemment, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la France, là, aujourd'hui, avec, à partir de ce sommet-là, également, fait entendre la voix. Alors, qu'est-ce qui explique cette course, justement, vers l'IA?
Ben alors, effectivement, on note bien cela. Il y a une vraie course, on va dire, vers l'IA. Et cette course-là, elle a lieu, on va dire, dans des environnements divers et variés, au niveau des entreprises, parce qu'au-delà donc, d'être chercheur, je suis aussi directeur des systèmes d'information pour un groupe. Et même dans l'entreprise, le constat est fait. On note bien que la plupart des entreprises aujourd'hui tentent de s'aligner, en fait, vers l'IA. Et donc, l'intelligence artificielle en elle-même est devenue un levier, disons, fondamental pour la souveraineté des nations, car on va dire qu'elle impacte directement plusieurs secteurs stratégiques, entre autres la défense, l'économie, la santé, l'éducation, la cybersécurité aussi, l'innovation technologique, la gouvernance et puis bien d'autres. Et il est bon déjà de savoir que dans le domaine militaire, l'IA est utilisée donc pour la surveillance, pour l'analyse prédictive des menaces et pour le développement d'armes autonome. Voilà. Sur le plan économique, la maîtrise des technologies d'IA permet de renforcer, on va dire, une sorte de compétitivité industrielle. En cybersécurité et renseignement, les États se dotent d'outils d'analyse de données massives et d'algorithmes capables de détecter les cyberattaques en temps réel. Donc, au niveau de l'industrialisation, on note que le niveau d'industrialisation et de préparation à l'adoption de l'intelligence artificielle est étroitement lié, en fait. Voilà. Donc, c'est deux sujets qui vont dans le même sens. Donc, en 2022, le disais-je, donc, les pays africains les mieux industrialisés, donc, selon la BAD, étaient également ceux qui étaient le plus préparés, donc, à l'adoption de l'intelligence artificielle. En tout cas, suivant, donc, le rapport Ostroth Insight. Donc, nous avions le même top 5 sur les deux leviers. Donc, juste dans un ordre quelque peu différent. Il faut aussi noter que pour préserver leur souveraineté numérique ou même une souveraineté globale, hein, les États cherchent à limiter leur dépendance aux technologies étrangères en développant leur propre infrastructure cloud et puis, bien sûr, leur propre modèle d'IA, parce que c'est un vrai sujet. Il faut rappeler à juste titre que selon le tout dernier rapport, on l'a dit, les pays qui se démarquent, en tout cas, on a le top qui n'a pas changé. Donc, les États-Unis qui sont vraiment ce pays-là, qui reste vraiment le leader incontesté et incontestable. Mais derrière, les autres pays ne dorment pas, voilà, comme on le dit. Et donc, les choses, justement, avancent dans le bon sens. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et chacun des pays, c'est déjà pour cela que c'est une très bonne chose que l'Afrique s'y intéresse. On voit et on note aussi que l'Afrique veut mettre en place des actions concrètes en termes de conseils d'IA et tout ça. C'est de très belles choses. Je pense que dans les temps à venir, des choses vont être beaucoup plus claires et l'Afrique va véritablement prendre les choses en main.
Et parlant de l'Afrique, dans le premier point, quand on évoquait justement la signature de cette charte, vous avez cité un classement où en Afrique, on a un top 5 et on retrouve le Sénégal classé 5e. Alors, qu'est-ce qui amène le Sénégal à être 5e aujourd'hui en ce qui concerne l'IA en Afrique? Quels sont les atouts? Qu'est-ce qui joue vraiment en faveur de ce pays-là?
Ben alors, c'est une très belle remarque, effectivement, hein, parce que, comme on peut le noter, le Sénégal, depuis un moment, en tout cas, se démarque, est vraiment en avant sur l'aspect technologique. Et comme je l'ai aussi dit, d'ailleurs, cet index-là repose sur trois piliers fondamentaux. La partie gouvernance, donc le gouvernement en lui-même, donc stratégie, réglementation, compétences en IA. Le deuxième sujet, c'est le secteur technologique, donc en termes d'innovation, de maturité du marché. Et puis le troisième point, c'est la partie données et infrastructures, donc en termes de qualité et de disponibilité des données, en termes de connectivité. Donc quand on regarde ces aspects-là, en termes de positionnement, le Sénégal est bien en avant. D'ailleurs, on a, on va dire, des cas concrets, on va dire d'IA qui existent au Sénégal. On a par exemple des applications qui existent et qui vont permettre, on va dire, aux Sénégalais de pouvoir s'exprimer en Wolof. Voilà, donc c'est des choses importantes voilà, en termes de développement sur l'aspect santé et bien d'autres sujets. Donc le Sénégal vraiment veut se démarquer, je pense qu'on le voit, hein, mais je suis, hein, je parie que la Côte d'Ivoire aussi à côté est en train de faire l'effort. Donc certainement dans un an ou dans deux ans, on verra que les choses vont changer parce que la Côte d'Ivoire n'entend pas se laisser faire.
Mmh. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les sources de ce classement? Et la Côte d'Ivoire est classée 22e, c'est cela?
Oui, on va dire à l'échelle africaine.
À l'échelle africaine, oui. Mmh. Voilà. Donc l'Égypte est en tête.
L'Égypte est justement en tête. Voilà. Donc après l'Égypte, nous avons les autres pays, on va dire, qui se démarquent. Et donc on a l'île Maurice qui était auparavant le premier pays, mais bon, dans le classement de 2024, donc Oxford Insight, voilà. Donc c'est l'index justement qui parle, on va dire, du niveau d'adoption, on va dire, en termes de préparation des pays de façon globale. Donc nous avons l'Égypte, nous avons l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Sénégal dans le top 5 africain. Voilà. Et donc, la Côte d'Ivoire occupe la 140e place, on va dire, au niveau mondial. Voilà. On a quand même un peu reculé par rapport au classement de 2023. Mais je pense que les choses sont en train de se mettre en place pour que, voilà, on puisse véritablement aller de l'avant.
C'est cela. Et puis, vous avez aussi évoqué, hein, le cas des stratégies économiques et militaires des grandes puissances. Alors, comment s'organise cette course mondiale entre les États-Unis, la Chine et l'Europe? Et là même, on ne parle pas encore de l'Afrique.
Effectivement, on parle, hein, de ces pays-là qui sont des pays, on va dire, qui se positionnent très radicalement sur ces sujets-là. Les Américains innovent, les Chinois ils développent. Les Européens régulent, les Africains devraient davantage se structurer et se mettre dans une démarche de co-construction pour ne pas rester en marge. Et c'est clairement le mot d'ordre qu'il faut comprendre, qu'il faut entendre, parce qu'on a pu le voir encore à travers ce sommet-là, que les Africains utilisent des IA, on va dire, américaines, des IA chinoises, des... voilà. Mais il nous faut créer nous-mêmes du contenu.
Il faut des IA africaines.
Absolument, absolument. Et il faudrait que nos IA reposent sur des données africaines. Parce que tant qu'on va continuer à utiliser les IA, on va dire, à l'échelle européenne ou avec un fondamental européen, c'est clair que cela ne va pas s'adapter à nos réalités. Donc c'est un vrai sujet. Et comme on a pu le noter, nos données restent vraiment cet or-là qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai, on a beaucoup de données, mais il y a le sujet de la qualité de ces données-là. Et il va y avoir aussi le sujet, on va dire, de l'infrastructure, parce que quand on parle d'IA, on parle de puissance computationnelle, on parle véritablement de talent, on parle d'un écosystème qui soit, on va dire, prêt à aller de l'avant. Donc ça va être de vrais sujets à prendre en compte, parce que nous n'allons pas passer notre temps à utiliser. Nous devons passer à la phase de conception, en fait. Et c'est là, véritablement, que toute la différence va se faire. Je suis persuadé qu'il existe des talents. C'est vrai qu'on peut se bonifier. Nous avons plusieurs personnes au niveau de la diaspora, mais pas que. Il y a des compétences locales qui sont capables de pouvoir nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Il nous faut juste faire de la co-construction. Chacun ne doit pas rester dans son coin. On ne doit pas se mettre en autarcie. Non, nous devons ensemble juguler justement une convergence d'idées pour véritablement nous permettre de nous démarquer. Et je pense que cela est possible.
Oui, et on avait déjà évoqué justement ce sujet lors d'une émission portant sur les cités d'innovation et de culture annoncée par le chef de l'État ivoirien et puis prévu démarrer cette année 2025. Alors, ce genre de cité ou de plateforme pourrait justement être à la base de la réflexion et de, on va dire, l'expression du génie technologique. Hein, et qui pourrait peut-être nous amener à être aujourd'hui de véritables concepteurs et développeurs en termes d'IA, n'est-ce pas?
Absolument, absolument. Et je pense que c'est une très belle initiative, hein. Dans d'autres pays, on parle de Silicon Valley et bien d'autres. Mais justement, il faut un cadre qui s'y prête. Donc, il y a en Côte d'Ivoire des start-up, il y a des entreprises qui sont capables de faire la différence. D'ailleurs, certains pays africains nous ont emboîté le pas, hein. On parlait tout à l'heure du Sénégal, mais c'est vraiment dans cette logique là où le gouvernement accompagne, on va dire, l'écosystème de façon à créer une sorte de saine émulation pour créer aussi une sorte de co-construction. Et c'est justement comme on l'a vu, hein, voilà, on a des espaces qui s'y prêtent comme le VTIP, qui sont, on va dire, des cadres inclusifs qui permettent, on va dire, à nos compétences locales de se faire valoir. Donc je pense que c'est un vrai sujet et il faut encourager ces initiatives là
On va à présent aborder le point sur les opportunités et les risques au niveau de la cybersécurité. Alors, c'est clair, quand on parle d'IA, forcément, il y a la question de la protection des données. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un véritable outil de progrès, mais elle pose aussi de sérieux défis en matière de cybersécurité. Alors, quels sont ces risques majeurs liés à l'IA aujourd'hui?
Mais alors, il serait peut-être bon de rappeler de façon assez simple, hein, pour tout le monde, peut-être pour mieux comprendre, c'est que la cybersécurité vise à protéger les systèmes et les données contre les cyberattaques, donc pour assurer la sécurité des informations, la continuité des activités, la confiance des utilisateurs. L'autre chose qu'il est bon peut-être de rappeler, c'est que d'un autre côté, nous avons l'intelligence artificielle à ses premiers fondamentaux qui remontent aux années 43, voilà. Donc avec la création du réseau de neurones en passant aux années 56, avec l'utilisation pour la première fois du thème d'intelligence artificielle. Nous avons aussi des concepts tels que le machine learning, le deep learning et bien d'autres. Donc en réalité, l'IA existe depuis bien longtemps et alimente déjà de nombreux outils numériques tels que les moteurs de recherche, les assistants vocaux, donc on a Google Assistant, Siri, Cortana et bien d'autres. Donc même sur les réseaux sociaux. Donc, à côté de cela, l'IA renforce la cybersécurité. Comment? En améliorant simplement la détection des menaces, l'analyse des comportements suspects et bien d'autres. Mais, comme vous l'avez si bien dit, l'IA est également utilisée par les cybercriminels pour créer des attaques plus sophistiquées. Donc, comme le phishing automatisé, le deepfake, les malwares polymorphes, qui sont plus difficiles à détecter et à contrer. Donc, dans ce contexte-là, l'IA est à la fois, on va dire, une solution en termes d'allié, mais aussi un défi véritablement pour la cybersécurité. Et d'ailleurs, en termes de sources, pour citer quelques éléments, c'est que selon le rapport Checkpoint, en tout cas de 2024, nous avons un top en termes de tendance. Voilà, donc on a des ransomware et vulnérabilités 0D, on a l'augmentation du activisme, donc le retour donc des groupes criminels, l'usage de l'IA donc dans les cyberattaques. Donc concernant les prédictions de 2024 selon Kaspersky, donc nous allons noter une augmentation des exploits donc sur les appareils mobiles et intelligents. Ça va être aussi de vrais sujets. On a aussi un autre rapport d'Interpol donc de 2024 sur la cybercriminalité en Afrique. Donc, il met en lumière l'intensification de la cybercriminalité à travers le continent, avec bien sûr les ransomware, les escroqueries, aux faux ordres de virement comme menace principale. Nous avons plusieurs sujets et aussi nous avons le rapport du CESIA de 2024 en Afrique, donc qui affiche sur le tableau de top 5 les attaques, à savoir l'hameçonnage, l'ingénierie sociale, le rançongiciel, l'exploitation de la vulnérabilité et le DDoS. Donc, ça va être de vrais sujets, une réalité qu'il ne faut pas se leurrer. On l'a dit, hein, d'ailleurs, l'utilisation de l'IA en cybersécurité a permis aux cyberattaquants de mener des attaques plus sophistiquées, on l'a dit. Les deepfakes, donc, utilisés donc, pour des usurpations d'identité et des fraudes financières en clonant des voix ou des visages de dirigeants, on l'a vu, les exemples sont légion. On parlait tout à l'heure du phishing par l'IA, donc des modèles génératifs créent des emails personnalisés et adaptatifs donc, pour piéger leurs victimes. On a parlé des malwares polymorphes. Donc, cette fois-ci, l'IA va permettre aux malwares de changer de signature pour empêcher aux antivirus de les voir. On va avoir, bien sûr, toute cette manipulation-là sur les réseaux sociaux. Donc, les bots IA diffusent de fausses informations donc, pour manipuler l'opinion publique. Donc, c'est des éléments auxquels il faut faire attention, surtout en Côte d'Ivoire, en cette année électorale. C'est des sujets vraiment auxquels il faut prêter toute attention. Et bien sûr, nous avons toute cette réglementation-là qui est là. Et je parlais tout à l'heure du fait que il fallait apporter un regard particulier à la protection de nos données. Comme on le dit souvent, si nous partageons une information, si un réseau, il faudrait que nous nous demandions, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile tout ce que je partage comme information? C'est vraiment le sujet de la protection de nos données à caractère personnel. Et bien sûr, il faut savoir que sur Internet, il n'y a rien de gratuit. En tout cas, si on nous dit que quelque chose est gratuit, sachant que c'est nous le produit en fait. Donc c'est un élément très important auquel il faut faire attention et bien sûr, c'est un élément d'actualité.
Un élément d'actualité, et on va revenir rapidement aussi sur cette charte qui a été signée, justement face à toutes ces menaces, on dira qu'on pourrait constater à partir de l'IA. Pour vous, la charte là, elle vient à point nommé, et surtout pour la Côte d'Ivoire qui traverse là en ce moment une année électorale, 2025. Alors comment est-ce que on peut davantage redoubler d'efforts pour éviter toutes ces d'être pris au piège, comme on dit.
Bien sûr, la charte elle vient à point nommé, mais pour moi, l'application, on va dire, se met à plusieurs niveaux. Mmh. Déjà, pour nous, de façon personnelle, moi, en tant que citoyen, comment je fais justement pour ne pas subir l'intelligence artificielle ? Il faut que je fasse attention à mes données à caractère personnel. Il faudrait que même quand j'utilise une IA comme ChatGPT, par exemple, il faudrait que je fasse attention aux données que je vais renseigner sur cet outil-là. Parce que d'ailleurs, ça va être des données qui vont être hébergées ailleurs. On dit que à peu près ou moins de 2% de nos données, on va dire, sont hébergées en Afrique. Voilà, donc il faut comprendre que c'est vraiment un gros gap. Donc, celui qui a nos données a vraiment une souveraineté. Donc ça, c'est un élément aussi clé à savoir. L'autre élément pour nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est la question de la finalisation ou en tout cas de la mise en œuvre totale de cette charte-là ou alors de cette stratégie nationale. On a eu l'occasion d'y travailler, c'est finalisé. Il reste justement à passer à l'étape, on va dire, de présentation. Donc ça, c'est un élément important. Mais en même temps, au niveau des entreprises, il faut mettre en place déjà des chattes d'IA de façon locale pour dire effectivement, parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, c'est des réalités, la plupart des employeurs aujourd'hui utilisent l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on met en place dans l'écosystème, voilà. Et c'est d'ailleurs, j'ai l'occasion aussi d'appartenir à des associations comme le club des DSI ou l'association des professionnels de la sécurité de l'information où nous faisons de la sensibilisation. Donc cela va passer par de la sensibilisation, d'informer justement les différentes parties prenantes sur les dangers, on va dire l'IA, mais aussi sur les bienfaits. Parce que oui, l'autre chose, c'est que bien vrai qu'il y ait ce danger-là, mais si on utilise l'IA de façon responsable et éthique, on pourra tirer vraiment parti. Donc, c'est ces éléments-là auxquels il faut vraiment faire attention et il faut véritablement se dire que celui qui ne fait pas l'IA, il va être défait par l'IA finalement.
Ça, c'est bien dit. Celui qui ne fait pas l'IA sera défait par l'IA. Donc, il faut rester à la pointe, hein, de cette évolution-là. Alors, donc, face à ces nouvelles menaces, il faut des moyens concrets. Alors, quels sont ces moyens concrets-là dont disposent nos États africains, par exemple, pour renforcer leur cybersécurité? Qu'est-ce qui existe déjà? Et puis, quels sont les gaps, hein, à pouvoir combler?
Ben alors... À l'échelle de certains pays, hein, pas tous, de certains pays africains, il existe bien, on va dire, des stratégies nationales. Nous avons une stratégie nationale, en tout cas, en termes de cybersécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'autre élément important, c'est qu'au-delà de cette stratégie nationale-là, il y a aussi une stratégie à l'échelle, on va dire, de l'Afrique. Voilà, une stratégie qui existe, hein, voilà, qui cherche justement, qui vise à inciter tous les pays africains à véritablement assurer un écosystème qui soit sécurisé. Mais l'autre élément, je le disais récemment sur un plateau, c'est de dire qu'on a la convention de Malabo qui vise à instaurer un cadre juridique donc pour la protection des données et la cybersécurité en Afrique. Cette convention-là, elle n'avait pas encore été ratifiée, hein, voilà, par certains pays africains, en tout cas jusqu'aujourd'hui, bien qu'elle soit entrée en vigueur récemment, donc en 2023, donc après la ratification par 15 pays. Donc c'était vraiment ça le concept de base, c'est que quand on arriverait au 15e pays, cette convention rentrerait en vigueur. Donc sur les 55 pays africains, à peu près moins de 30% ont ratifié cette convention-là. Donc cela montre un manque d'engagement, hein, clair. Sur l'aspect politique pour certaines régions du continent, donc rendant la protection des données encore plus incertaine donc pour de nombreuses entreprises. Et d'ailleurs, l'autre élément qu'il est important de noter, c'est que en l'espace de 10 ans, depuis son adoption, donc cette convention-là, le domaine de la technologie a considérablement évolué. Donc des sujets tels que la blockchain, l'IoT, donc l'Internet des objets, la montée en puissance des GAFAM ou des GAMAM, voilà, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et bien sûr l'intelligence artificielle ont tous connu une expansion significative. Donc il faut donc la mettre à jour, cette convention-là. Donc à l'échelle donc africaine, il y a un travail important à faire et heureusement qu'il existe donc des actions concrètes qui existent, hein, voilà, donc en termes de partage d'expériences qui se font sur des univers divers et variés pour permettre, on va dire, aux Africains de pouvoir, on va dire, se démarquer. Donc parce que malheureusement la réalité est là, nous sommes tous sur Internet et comme nous sommes sur Internet, il faudrait que chacun fasse l'effort de se contrôler. Et c'est pour cela qu'effectivement, il faut sensibiliser, il faut éduquer et conduire les uns les autres à comprendre l'importance du sujet du numérique. Mais c'est vrai, on va être sur Internet et tout cela, mais il existe, on va dire, des dispositions pratiques à prendre nous-mêmes en tant qu'utilisateurs, mais pour chaque entreprise, pour ne pas aussi sombrer dans les méandres et dans les labyrinthes, il est important justement que chacun comprenne le sens de la technologie, mais l'usage qu'il en fait pour pouvoir l'utiliser de façon éthique et aussi responsable.
Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Ça passe vite, n'est-ce pas, docteur Kofi ?
Très vite, d'ailleurs.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment.
C'est clair.
Alors, on va beaucoup parler maintenant des perspectives, hein, surtout pour l'Afrique, et puis aussi des recommandations. Bien évidemment, je sais que vous en avez. Alors, on en parlait, l'Afrique, et particulièrement la Côte d'Ivoire, à travers cette charte-là qui a été signée sur l'intelligence artificielle adoptée lors du sommet en France. Quels sont les enjeux spécifiques, hein, pour le continent africain dans ce domaine-là? Et puis, bien évidemment, pour la Côte d'Ivoire, quelles recommandations feriez-vous, hein, aux entreprises locales, aux décideurs, à toute la population, même de façon générale, pour pleinement profiter de l'IA tout en minimisant les risques?
Ben alors, c'est une belle approche d'ailleurs, parce que il faut dire que l'intelligence artificielle redéfinit les rapports de force internationaux, donc il est devenu un sujet, un enjeu stratégique de souveraineté et de puissance économique. Donc son intégration dans les secteurs comme le secteur militaire, industriel et numérique renforce en fait la compétitivité des nations, mais accentue également des déséquilibres mondiaux. Donc des exemples concrets tels que l'usage de l'IA dans la défense, donc à travers des drones autonomes, la finance à travers l'automatisation des transactions et l'industrie à travers l'optimisation des chaînes de production, montrent comment les pays les plus avancés donc en IA renforcent leur position pour véritablement se démarquer sur l'échiquier mondial. En revanche, la fracture numérique se creuse, laissant des économies émergentes dépendantes des technologies étrangères, notamment en matière d'infrastructures et de traitement des données. Donc, pour éviter, encore une fois, une sorte de marginalisation technologique, il est primordial d'établir des cadres de gouvernance clairs, d'encourager l'investissement dans l'innovation locale et de renforcer la coopération internationale. Donc, la régulation de l'IA devient un enjeu clé, donc, pour garantir un développement équilibré et éthique, où chaque nation peut tirer parti de cette révolution-là sans être exclue. L'autre élément, c'est qu'avec une stratégie concertée entre gouvernements, entreprises et institutions de recherche, l'IA peut devenir un levier de croissance inclusif et durable pour l'Afrique, notamment pour la Côte d'Ivoire. Donc l'Afrique utilise l'intelligence artificielle, donc ça va être des IA françaises, américaines, chinoises. Donc tant qu'il n'y aura pas d'IA africaine, donc pour coller aux réalités du continent, ce sera le serpent qui se mord la queue. Donc comme on le sait, et je le disais tantôt, les données sont la matière première d'un algorithme d'intelligence artificielle. On note aussi que moins de 2% des données mondiales donc, sont hébergées en Afrique. Donc, le moment est venu d'agir pour construire un écosystème numérique mondial équitable, garantissant l'innovation, la souveraineté pour tous. Nous devons véritablement passer à l'action, parce qu'on peut se poser la question, mais si on ne passe pas à l'action, qui va nous sauver? Je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne route, est sur le bon chemin. Voilà. Il convient que dans les centres de recherche, que dans les écoles, on comprenne cela, que dans les curriculums justement qu'on diffuse au niveau donc des différentes écoles, des universités, tout ça, le sujet de l'intelligence artificielle soit déjà abordé. On disait il y a quelques années que celui qui ne sera pas utilisé un ordinateur, il sera un analphabète. Mais dans quelques temps, on en dira justement pour l'IA. Celui qui ne saura pas utiliser l'IA de façon raisonnable, responsable, sera un analphabète. Aujourd'hui, l'IA permet de pouvoir faire de belles choses, de gagner du temps, on va dire, dans la façon de travailler. Et donc, c'est les choses-là qu'il faut utiliser. Mais bien sûr, il faut justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut passer à l'action. Le temps n'est pas au débat, mais le temps est vraiment à l'action. Parce que c'est vraiment dans l'action que les choses vont se passer et toute la différence va se jouer.
C'est cela. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un enjeu stratégique majeur, redéfinissant les équilibres géopolitiques et posant de nouveaux défis en cybersécurité. Et pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, il ne s'agit plus seulement de suivre cette révolution, mais d'y prendre part activement en développant nos propres solutions et en sécurisant nos infrastructures numériques. Merci à vous, Dr Hyacinthe Kofi, enseignant-chercheur, spécialiste en cybersécurité et intelligence artificielle. Il est aussi directeur des systèmes d'information groupe pour une holding multisectorielle. Vous nous avez vraiment éclairé sur ce sujet, la question de l'IA face aux défis mondiaux et aussi au positionnement stratégique et géopolitique qu'on constate à partir de cette technologie. Alors, la réflexion continue donc.
Bien sûr.
Et donc, à très bientôt pour
Merci.
D'autres échanges.
Merci infiniment.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt donc.